Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes, Radio Zone 93.8 et nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney comme tous les mercredis de 17h à 18h30 dans Remue Ménage. Nous vous rappelons que si vous voulez intervenir dans le cadre de nos émissions entre 17h et 18h30, vous pouvez le faire en nous appelant au 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien, nous nous retrouvons avec Marie-Noëlle Andersen, Betty Chambim-Fenge et Hermine Meidou, nos invités pour nous parler de médecine traditionnelle africaine. Si vous êtes auditrice ou auditeur fidèle, vous vous rappellerez sûrement qu'il y a de cela 2 semaines, nous nous sommes rencontrés avec nos invités à l'occasion d'un congrès sur médecine traditionnelle et art africain qui avait lieu à Genève. Et nous avions abordé un petit peu les grandes questions d'ensemble concernant la médecine traditionnelle africaine. Et il y avait tellement de points que nous n'avions réussi à aborder que nos 3 invités m'ont proposé de refaire une émission supplémentaire pour aborder quelques-unes des questions que nous n'avions pas encore abordées. Et si nécessaire, eh bien nous en referons encore une autre et peut-être aussi au vu des questions que vous pourriez leur poser, soit en cours d'émission, soit éventuellement en nous écrivant et en proposant d'autres émissions. Je vous dis vite l'adresse en passant, Onde Femmes Remue Ménage, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Alors, bienvenue à toutes les 3 d'abord.
Salut,
bonjour.
Et bonjour. Avec donc nos invités, nous avons décidé aujourd'hui de nous centrer bien sur la spécificité peut-être bien évidemment de notre émission qui est la place des femmes dans la médecine traditionnelle africaine. Parce que la dernière fois, nous avions surtout essayé de comprendre dans quelle vision du monde les habitants de l'Afrique avaient, qui faisait qu'ils concevaient les soins et la santé, le bien-être, l'équilibre des gens d'une autre façon que nous pouvons le concevoir dans le monde occidental. Et nous avions abordé plutôt ces questions en général. Aujourd'hui, qui sont les acteurs de cette médecine traditionnelle africaine? Eh bien, par exemple, quelle est la place des femmes dans ces différents rôles? Il y a le rôle du guérisseur, nous en avions parlé un petit peu il y a 15 jours, nous avions parlé aussi des sorciers, nous avions parlé des herboristes, nous avions parlé des... Enfin, il y a différents rôles possibles, nous allons devoir repréciser tous ces différents rôles aujourd'hui, mais en y distinguant en particulier la place des femmes. Alors, Hermine, je vous rappelle qu'Hermine, je suis obligée de leur dire, excusez-moi, c'est moi qui leur disais, on ne peut pas faire comme si on s'était quitté hier, effectivement, à moi de prendre la leçon tout de suite. Alors, Hermine Meidou est psychologue, elle a fait de nombreuses recherches et études en Suisse, elle vient du Cameroun, elle a fait une recherche en particulier qui a fait l'objet d'une publication qui porte, Hermine, vous me corrigez si c'est ce que je dis est faux, sur le rôle que peuvent jouer des gens qui sont eux-mêmes malades dans le traitement de la folie, c'est ça?
Oui.
Betty Chambim-Fenge, quant à elle, est spécialiste du massage pour bébés et thérapeute à ce titre elle aussi.
Oui.
Et Marie-Noëlle Andersen est elle aussi thérapeute et membre de l'association des guérisseurs africains. Faut spécifier africains, Marie-Noëlle ?
Des guérisseurs traditionnels.
Traditionnels, voilà. Donc chacune une pratique liée à une connaissance de la médecine traditionnelle africaine est située dans des lieux géographiques différents. Marie-Noël y puise une énergie en Afrique du Sud, Betty au Cameroun ainsi que Kermine. Donc, et puis bien sûr aussi un pied important en Suisse. Alors Hermine, peut-être, est-ce que vous pourriez commencer par nous situer un petit peu comment les femmes sont amenées à pratiquer l'art de guérir ou comment elles entrent? On dit que peut-être comme ça, je ne sais pas.
Là, je me contenterai de dire ce qui se passe dans la région Bamileke au Cameroun, c'est-à-dire ma région d'origine. Il y a plusieurs types de guérisseurs. C'est-à-dire qu'on peut hériter le don, on peut choisir de faire la formation, on peut être appelé par Dieu. On peut aussi avoir le don de naissance, c'est-à-dire que dans la famille, il n'y a personne qui guérit, mais l'enfant né avait le don de guérir. On les appelle souvent des enfants à quatre yeux, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir plus loin que les autres. Et le rôle de la femme, pour y revenir, très souvent... c'est sûr qu'au Cameroun comme ailleurs, on trouve des femmes qui connaissent les bonnes herbes, qui soulagent des maux, ou bien qui sont même spécialistes dans un certain domaine pour avoir appris à le faire de leurs propres parents. Mais mon champ d'intérêt, c'est surtout celle qui passe, comme tu viens de le dire, par une crise de folie dont la maladie est considérée comme un voyage initiatique. Et là, il y a tant d'hommes que de femmes. Et la première remarque, c'est que ceux qui ont cette expérience-là n'exhibent pas leur force. C'est-à-dire qu'ils se comportent toujours comme s'il y avait quelque chose au-dessus de l'être humain, quelque chose de plus fort qui supervise ce qui doit être fait, quitte à ce qu'on soit obligé de suivre les règles et rien d'autre. Alors que d'autres guérisseurs, surtout les masculins, sont capables d'exhiber leur force. Ils sont capables de tout affronter. Ils peuvent se faire payer. Ils donnent un certain prix. Ils donnent un tarif. Ce qui ne se passe pas avec l'autre type de guérisseurs où on trouve aussi des femmes.
Est-ce que tu peux quand même spécifier, Hermine, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser sa folie pour guérir d'autres? Ça a été l'objet d'une longue recherche de ta part, mais pour nous
est-ce qu'on peut vraiment utiliser sa folie? C'est que ces gens-là sont comme toi et moi, c'est-à-dire un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui du jour au lendemain a...
Expression bien suisse, pas très camerounaise.
Qui du jour au lendemain a une crise d'abord de dépression, hallucination, automatisme musculaire, etc. Et ce qui est déculturel, c'est que quand ils s'exilent dans la forêt, par exemple, parce qu'ils aiment bien le repos, ils aiment bien là où ils n'ont affaire qu'aux esprits, où les êtres humains ne se plaignent pas d'ici et de là, ne leur disent pas ce qu'il faut faire. Alors, ils s'exilent. Ça peut être une question de 2 ou 3 semaines. En revenant, ils ont déjà des bonnes herbes. L'expérience de la folie peut durer de quelques mois à 10 ans. Ça, j'en ai connu qui souffrent depuis 10 ans.
Mais on peut apparenter leur folie à ce que nous, on appelle
sûr,
la folie.
Bien sûr, ce sont des symptômes qui se rencontrent partout. Bon, en Occident, quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas comment définir ces phénomènes. Un jour, en feuilletant le dictionnaire de Norbert Silamy, et j'ai vu que la description qu'il faisait de la psychose hallucinatoire chronique correspondait bien à ce dont je parlais moi. Et j'ai adopté cette définition-là pour celui qui veut marginaliser ces gens-là. Parce que chez moi, on n'a pas besoin de les appeler psychotiques. C'est d'abord l'enfant de telle personne, c'est la sœur de telle personne, c'est la personne issue de tel clan. C'est un homme, une femme, parmi les autres. Il se pose un tel problème, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'une étiquette pour ça. Il faut maintenant trouver la solution au problème qui est posé. Et c'est dans ce sens-là que ces gens qui sont passés par ce type de folie, après, sont utiles pour guider ceux qui ont le même malheur ou bien le même bonheur. Parce qu'au fond, c'est très difficile on ne peut pas tellement savoir.
Ouais. Et les femmes sont nombreuses à se trouver dans cette situation,
ouais,
et à devoir assumer ce rôle.
il y en a beaucoup. Je crois que, bon, sur les 68 interviews que j'ai maintenant, je crois que j'ai une cinquantaine de femmes. Bon, il faut dire qu'il y a à la fois les consommateurs, les témoins, des groupes témoins qui sont faits des gens qui ne sont pas pratiquants, mais qui bénéficient des soins des thérapeutes. En tout cas, il y a légèrement plus de femmes que d'hommes parmi les guérisseurs munici.
Et c'est cette catégorie que tu appelles les appelés de Dieu, c'est ceux-là?
Oui. Je crois qu'appeler de Dieu, ça pourrait se dire de ceux qui ont aussi le don de naissance, parce qu'ils n'ont pas appris. Et ils n'ont pas hérité directement de leur papa ou de leur maman. C'est plutôt des gens pris. On le dit, des gens pris par Dieu. Dans la langue mamileke, Silori, Dieu l'a pris.
Et le village, la communauté réagit comment face à cette capacité thérapeutique de ces gens? Comment ils sont accueillis? Est-ce que les gens leur font confiance? Comment ça se passe? Parce que chez nous, on enferme donc les malades mentaux en général, ou on les exclut, ou comme hein, ils ne sont pas considérés comme des personnes de qui il faut s'approcher pour tenter d'espérer un quelconque une rémission à une quelconque un quelconque mal-être.
Bon, sans te mentir, au départ, c'est un problème, un grand problème. Et les Africaines qui sont ici ne pourraient pas me contredire, parce que chaque fois qu'il y a un élément de déséquilibre dans une société africaine, tout le monde doit être mobilisé. C'est vraiment l'un de, je sais pas si on peut appeler pilier ou bien, en tout cas, c'est quelque chose de très important dans une société dite traditionnelle. Mmh. On est là pour perpétuer ce qui est bon. Et quand il y a un élément qui risque de perturber ce qui a été transmis jusqu'ici, c'est le rôle de l'individu de transmettre ce qui a existé à la postérité. Et quand ce rôle risque d'être perturbé par quelque chose qu'on ne comprend pas, on est mobilisé. L'une des premières choses à faire, c'est trouver un sens. Parce qu'on considère que c'est que l'individu porte le message à la communauté. À force de chercher le sens et la situation évolue, les éléments se convergent et on y voit progressivement plus clair. Mais en attendant, il n'y a pas besoin qu'ils soient en fait. De toute façon, il n'y a pas d'asile psychiatrique. Même ceux qui sont vraiment malades, je veux dire, même ceux qui sont physiquement malades n'ont pas nécessairement de place à l'hôpital. Combien de fois avec celui-là, on ne saura même pas quoi lui donner sur place.
Mais est-ce que tu permets de nous donner un exemple précis d'une des interviews que tu as fait, où en l'occurrence c'est une femme qui se trouve dans cette situation, pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi il s'agit?
Avant même mes études, j'avais déjà deux enfants à l'époque des bas âges. Et après mon divorce, ça ne me permettait pas je n'avais pas l'occasion de les laisser seules pour séjourner longtemps au pays. Ce qui veut dire que j'ai fait plusieurs séjours et je n'ai pas suivi un seul sujet pendant longtemps. Donc si j'avais suivi un seul sujet ou deux pendant 6 mois, ça m'aurait suffi. C'est pour compenser ça que j'ai plusieurs sujets. Cependant, si tu me demandes de te donner des séquences des vies de thérapie d'une femme, des femmes, je peux t'en donner. Il y a par exemple ma cousine. Quand je suis arrivée au Cameroun, je ne savais même pas qu'elle était prise par Dieu. À l'époque, je n'étais pas tellement intéressée. Bon, quand je suis arrivée chez ma tante, une que j'aime bien parce que vraiment ce sont des gens très simples, très courtois. Et chaque fois que j'y vais, c'est vraiment mon cœur qui m'y conduit. Elle ne pouvait pas sortir. Elle était dans un coin sombre de la maison et il y avait son trou sanctuaire. Donc pour que nous, on entre, il fallait qu'elle demande aux esprits si notre présence était favorable ou défavorable. Parce qu'à chaque moment, s'il y a un élément qui ne convient pas, la folie peut s'aggraver. Donc chaque fois, on doit demander aux esprits, surtout pour elle, pour sa propre protection déjà. Et une fois qu'on est entré, elle a demandé la permission si je pouvais faire des photos. J'ai fait des photos d'elle, toujours en linge rouge. Elle était dans l'obscurité et voilée d'un tissu rouge.
Quel est le symbole de cette teinture rouge?
Non, mais je crois que ça aussi, c'est propre aux femmes bamileke. Parce que même quand on préparait une femme pour le mariage, on la couvrait de crème d'acajou. Bon, c'est un produit de beauté par excellence, mais chez les Bamileke, c'est vraiment pour les femmes. Il y a quelque chose de féminin dedans que je n'ai pas réussi à déceler jusqu'à maintenant. Peut-être parce que ça m'intéressait moins que la thérapie comme telle. Mmh. Mais toujours est-il qu'à ce niveau-là, jusqu'à sa première sortie, elle doit rester cachée. C'est quelque chose de nouveau. C'est un être neuf qu'on va montrer à l'humanité quand elle aurait fini ce que j'ai appelé dans le livre phase de transition. Donc le voyage initiatique, qui est la folie? Alors, cette cousine est restée là et bon, on a rendu visite, on a fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai contribué moi aussi aux frais, parce qu'il y a beaucoup de frais pour sauver la vie humaine. On paye beaucoup même du point de vue matériel. Et quand on considère que le peuple camerounais moyen n'est pas très riche et avec la crise, rien n'est donné, on investit quand même. La famille élargie, là, joue un rôle qu'on peut pas s'imaginer dans un monde comme celui de l'Occident, où quelqu'un a besoin de téléphoner à sa maman pour venir, sans quoi on la dérange. Vraiment, c'est lui qui apprend la nouvelle, vient de très loin et participe selon ses moyens. Bon, on a réussi à la sortie de là. Elle est maintenant munitionnaire installée. Ce qui veut dire, néanmoins, que si elle veut me rendre visite chez moi, elle demande aux esprits si elle peut passer la nuit dehors. Elle vient passer la nuit avec moi. Et pendant qu'elle est chez moi, il y a certains détails qu'elle ne doit pas oublier. Entre autres, avant de dormir, jeter un peu de sel, donner, c'est-à-dire nourrir les esprits de ma région à moi pour sa protection, etc. C'était une tranche. Là, j'ai vu un bout de quelqu'un qui évoluait et j'ai vu la personne après son installation. Mais il y a les médicaments qu'il cueille, etc. J'en connais qui. Et certaines sont intellectuelles, ils ont fait pas mal de récoltes d'herbes, intuitivement. Là, c'est très important de dire qu'ils n'ont jamais appris à cueillir les herbes. Donc, ce n'est pas inspiration, le rêve leur dit ce qu'il faut faire. Avec le temps, ils ont l'expérience.
Est-ce qu'on peut apparenter ça à ce que dans d'autres... chez nous, on parle des rebouteux, dans la médecine occidentale, il y a aussi cette situation. Enfin, Marie-Noëlle, tu opines du chèvre, tu connais, tu peux nous parler, de faire un apparentement?
Oui, je crois que c'est en fait la même base. Et chez nous, il y a beaucoup de personnes qui connaissent les herbes, qui connaissent les plantes et qui ont un savoir énorme et qui malheureusement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce que quand la science s'en mêle, on cherche toujours les principes actifs dans une plante. Et bien entendu que c'est une partie très intéressante et très importante, mais c'est finalement une partie, seulement une partie. Il y a beaucoup plus au niveau de la puissance de guérison, la puissance guérissante d'une plante qui a justement tout un côté symbolique, un côté sacré. Qui a trait à la façon dont elle pousse, à toute la symbolique qui est liée et qui va être révélée et pouvoir être utilisée en observant certaines règles, en observant certains rituels. Donc on ne va pas cueillir une plante n'importe quand. Et ça, c'est des choses qui se savent aussi chez nous, notamment le fameux millepertuis, ça se cueille à la nuit de la Saint-Jean, par exemple. Et c'est des vieilles connaissances que plein de personnes ont encore chez nous aussi, des guérisseuses. Ça va plus loin que les simples recettes de grand-mère.
Et puis cette idée que quelqu'un qui est à un moment donné atteint par une maladie mentale va pouvoir, dans un stade suivant, utiliser son expérience pour guérir d'autres. Est-ce que tu trouves un équivalent dans nos sociétés?
Je crois que dans nos sociétés, il y a beaucoup d'interdits. Parce que les gens ont peur de la folie. Donc je crois que c'est un élément très important. On veut tout de suite endiguer, canaliser, et mettre le couvercle sur ce qui se passe, sur les énergies, parce que c'est un savoir qui n'est plus reconnu, qui n'est plus pratiqué, étant donné que justement la science a tellement pris le dessus.
Le rationnel.
Le rationnel, voilà, exactement. Donc on a peur de regarder au-delà, de regarder, si on peut dire, la face cachée, de regarder au-delà de ce que ça peut représenter, de ce qu'il peut y avoir de de transformation, je dirais, chez la personne qui ensuite peut apporter toute cette expérience de vie, parfois très douloureuse, pour soulager les autres. Et c'est un parcours justement initiatique, comme on l'a dit, qui ici est très peu reconnu. Alors que bon, on parle du Cameroun, en Afrique du Sud, en Afrique australe, je veux dire, c'est quelque chose qui est évidemment normal aussi. Et, avec les mêmes catégories dont parlait Hermine tout à l'heure, on a aussi, par exemple, des enfants qui, dès le plus jeune âge, ont tout d'un coup des visions ou qui sont tout d'un coup possédés par un esprit, par un guide qui commence à dire des choses qui choquent la communauté. Et, ce que j'ai vu souvent aussi, c'est que, étant donné que le christianisme a eu un impact très fort, parfois ces enfants sont rejetés ou on ne les écoute pas parce que tout le christianisme empêche cette expression. C'est considéré comme quelque chose.
C'est du diable, ça.
Voilà, exactement. Donc, on a des cas où, par exemple, les parents ont cherché à soigner justement ces jeunes filles, souvent, jeunes gens aussi d'ailleurs, mais ces jeunes filles, avec les soins à l'occidental, les remèdes, les hôpitaux. Et forcément, ça ne faisait que de s'aggraver. Pour finir, ces jeunes filles devenaient effectivement fous ou folles. Alors qu'au départ, c'était simplement des visions, c'était des phénomènes qui se passaient, qui étaient très forts en soi, mais je veux dire qui se passaient dans une certaine harmonie. Et plus c'était castré, plus forcément la personne devenait déséquilibrée. Jusqu'à ce que les parents, pour sauver leur enfant, étaient bien obligés de se rendre à l'évidence et d'ouvrir leurs yeux et de se rappeler, de se souvenir au fond de tout de la tradition et d'écouter, de prendre conseil ailleurs, notamment par exemple auprès d'un guérisseur. Et en général, ce qui se passe, c'est que la jeune fille commence une sorte d'apprentissage, si on veut, où ses forces peuvent être canalisées, structurées pour devenir utilisables ensuite pour les autres. Et c'est très souvent lié, en Afrique australe en tout cas, à l'eau, à l'élément eau. Donc, on parlait d'aller dans la forêt tout à l'heure. En Afrique australe, souvent, les gens vont dans l'eau ou près de l'eau où ils rencontrent ce fameux serpent mythique, le python, dont ils parlent toujours avec une lampe sur la tête, paraît-il, qui leur donne cet enseignement en leur montrant les herbes qu'ils vont pouvoir utiliser, en leur montrant certaines médecines et peut-être certaines maladies particulières qu'ils vont pouvoir spécialement bien guérir.
Est-ce qu'on peut assimiler à ces deux situations, aussi bien Hermine que Marie-Noëlle, la notion de transe ? Dans certains pays, par exemple, comme le Brésil, pour ceux que je connais moi un petit peu, les femmes sont souvent celles qui se mettent en transe et qui par là, tout à coup, acquièrent un certain pouvoir. Est-ce qu'il y a un apparentement avec ce que vous dites ?
Bon, il faut dire que ce qui est au Brésil, c'est même pas qui m'a donné la parole.
Tu l'as saisi, c'est très bien.
Bon, le Brésil et le Cuba. N'oublions pas que ce qui se pratique là, c'est ce que les ancêtres africains ont pris. Et grâce à quoi ils ont sauvé leur peau.
Tout à fait.
Bien sûr que la culture, à mon sens, influence beaucoup ces pratiques. Étant au Brésil ou dans des îles autres de la région Haïti, tout ça, ils n'ont plus les mêmes réalités que celles d'Afrique. Cependant, ils utilisent les rudiments, je ne sais même pas si j'ai le droit d'appeler ça rudiment, ils utilisent quelque chose qui vient de loin, de la lointaine Afrique, grâce aux esclaves. Et ce qui est sûr que dans ça, il remonte le culte de l'eau douce, comme disait Marie-Noëlle, de l'eau tout court, du feu, de la terre, le culte des éléments, qu'on pratique aussi en Europe. Je connais un groupe qui pratique ça en Europe. Et la transe comme telle, ce serait quelque chose que tout individu peut faire. C'est-à-dire qu'on peut être préparé pour le faire. Parce qu'il y a un médium en chacun de nous. Bon, certains sont plus aptes et plus habiles que d'autres. Mais à tous les niveaux, on a besoin, quelle que soit notre capacité, quel que soit ce qu'on peut donner, on peut être aussi médium, on peut entrer aussi en transe.
Mais ça veut dire qu'on aurait besoin de se mettre dans un état particulier pour pouvoir aider les autres, par exemple, à se guérir.
Je crois que pour aider les autres, il faut déjà être préparé dans ce sens que quand on se rend disponible, ça veut dire aussi qu'on est ouvert à beaucoup de choses. Et les forces qui peuvent entrer ne sont pas nécessairement positives. Alors il faut se préparer en sorte que si ce qui arrive n'est pas ce à quoi on s'attendait et ce qui nous est utile en ce moment-là, on soit capable de repousser ça et ne prendre que ce qu'il nous faut en ce moment-là. Hormis même l'aspect négatif, je veux dire, si on est près d'une personne qui a plus besoin d'eau et que c'est le feu qui arrive parce qu'on a mal préparé, on peut aggraver le mal.
Marina, oui. Par rapport à la, tu as quelque chose à ajouter à ce que dit Hermine par rapport à cette, est-ce qu'il y a des différences très grandes? On l'avait déjà dit il y a 15 jours, on le répète peut-être, c'est vrai que l'Afrique est un continent, donc il y a des situations très diverses d'un bout à l'autre de l'Afrique, mais il y a des points communs. En tout cas, on avait vu que la vision du monde, elle est semblable. Maintenant, il y a des choses que l'on peut retrouver qui sont à la fois différentes en même temps dans diverses régions d'Afrique.
Oui, je crois que bon, l'essence est la même, mais il y a des formes qui sont différentes. Comme on a vu par exemple que dans certaines régions, ce sont les femmes qui sont devineresses et dans d'autres, ce seront plutôt les hommes. Et de même que les faiseuses de pluie au sud, ce sont les faiseuses de pluie. Et je crois que chez Hermine, ce sont plutôt les hommes. Enfin bref, mais le fond, l'essence est la même. Je pense qu'au niveau des éléments, il y a aussi cette conscience et cette connaissance de la force des éléments. Et peut-être qu'une personne aura plus d'affinité avec un élément. Et des guérisseurs plus forts, je dirais, ou plus puissants, sauront manier quelque part les quatre éléments. Et ce que disait Hermine est très très juste, et je crois que ça c'est valable aussi pour toutes les personnes qui ici pratiquent des thérapies dites alternatives. C'est absolument fondamental d'avoir une éthique parfaite si possible, parce que on est très vite dévié sans s'en rendre compte. Et je crois que c'est très très important d'avoir énormément de rigueur, et quand on est appelé à ce genre de travail, de vocation, de partage, il est très très important de ne pas entrer dans une espèce de désir de puissance pour vouloir bien faire, et d'être vraiment toujours à sa place avec beaucoup d'humilité, et d'être au service de ces forces guérissantes qui passent à travers nous en toute humilité. Et ça, je crois que ça fait partie d'un grand apprentissage long aussi, où il est demandé beaucoup de sacrifices, il est demandé beaucoup de lâcher prise. On doit observer certaines règles aussi, on ne peut pas aller faire la fête tous les jours, etc. Mais ça fait partie de notre mission, quelque part.
C'est dommage, hein?
Non, mais je suis d'accord avec elle, sauf que quelque part, la femme qui aime bien fêter en moi se sent un peu un peu malheureuse quand je suis obligée de me centrer sur quelque chose de plus sérieux et que j'ai aussi envie d'aller fêter. Je trouve un peu dommage pour la femme qui aime fêter, c'est tout.
Mais elle se rattrape après.
Ah, c'est certain.
Mais cela dit, cette définition-là de l'engagement de la tâche du thérapeute, nous l'avons rarement entendue sous les cieux occidentaux. Et donc, il y a de nouveau encore une façon différente de ressentir cette fonction, en tout cas par rapport à l'équilibre et au bien-être des gens qui vivent, en tout cas dans le monde, les pieds sur terre pour l'instant. Alors, au-delà d'une chanson qui nous sera interprétée par Oumou Sangaré, nous vous en parlerons un petit peu du contenu en quelques mots. Eh bien, j'aimerais qu'on essaie d'aborder, parce que tu as dit, Hermine, les femmes sont appelées à certains rôles et à d'autres pas, entre autres en parlant des rôles où on doit s'exhiber, montrer sa force, et d'autres pas, qui seraient plutôt réservés aux femmes. Donc, montrez bien de quoi elles sont écartées et au contraire, où on reconnaît leur tâche.
Adam, baby, man. Fabila wali faso ye ki ba fili wali faso fitiri wali